Aujourd'hui, j'ai le plaisir de pouvoir vous présenter Alain Cugnot qui va nous parler de l'utopie après Thomas More. Alain Cugnot est docteur d'État ès lettres et sciences humaines. Il est agrégé de philosophie, ancien élève de l'ENS à Saint-Cloud, ancien professeur de CAGNE, c'est-à-dire la classe préparatoire à l'ENS, au lycée Lacanal, et il est maintenant enseignant associé à notre faculté de philosophie. Alors, il a beaucoup publié dans des domaines un peu différents. Il a fait un livre sur Saint Jean de la Croix, un livre sur foi et raison. Il a publié sur le mal, sur la liberté affective. Il a fait un livre, une apologie de l'indifférence, intitulée « De l'angoisse à la liberté ». Et il y a deux publications récentes qu'il est intéressant de mentionner. « Ma vie de libellule ». Ma vie de libellule, qui est un ouvrage qu'il a fait avec un photographe, Daniel Magnin, qui fait des photographies splendides de libellules, et un autre ouvrage sur art et foi, intitulé « Art, foi politique, un même acte ». Et je mentionne enfin qu'Alain Cugnot est rédacteur en chef de la revue « Prison Justice ». C'est une revue, une publication de la Fédération d'associations qui réfléchissent à la vie carcérale et veulent contribuer à améliorer la vie des prisonniers, à limiter les effets déstructurants de la vie en prison et peut-être aussi à améliorer le fonctionnement de la police et de la justice. C'est peut-être un aspect moins connu de son travail ici. Voilà, Alain, je te donne la parole.
Eh bien, merci beaucoup. Et comme Guilhem, je m'arrêterai à 10h45 pour une pause, même si c'est au milieu d'un mot. Et donc, je vais essayer de poursuivre la réflexion qui a été entamée, et lui donner une tâche impossible d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez vu le titre, « La tradition utopique après Thomas More » de Campanella et Bacon à Ernst Bloch. Donc c'est impossible à faire, enfin, ou alors il faudrait consacrer, ou peut-être même ouvrir un centre spécial pour réfléchir sur cette littérature qui est surabondante. Donc, je ne parcourrai pas l'intégralité de cette tradition qui a eu des prédécesseurs par rapport à Thomas More, on l'a vu avec Platon, et qui se développe même encore maintenant. Enfin, c'est vraiment un monde. Et donc je vais faire trois choses finalement. D'abord présenter extrêmement succinctement quelques utopistes. Mais vraiment, vous allez voir, ça va être scandaleusement schématique, dans le but de déterminer quelques propriétés fondamentales, quelque chose comme une essence de l'utopie. Alors cette essence de l'utopie, on pourra toujours trouver des contre-exemples, ça c'est évident, dans un tel monde tellement diversifié, mais il me semble qu'il y a quand même des tendances, des sortes d'axes que nous pouvons identifier. Et à partir de là, le deuxième moment, ce sera de repérer une sorte de tournant dans l'utilisation de l'utopie, dans le statut même de l'utopie, et enfin, troisième moment, essayer de voir comment l'utopie s'enclenche sur la réalité, la manière dont elle s'enclenche sur la réalité, et c'est peut-être un peu paradoxal. Je ne cacherai pas que je vais être un peu iconoclaste et que je nourris une sorte de méfiance à l'égard de la pensée utopiste ou utopique. Et je commencerai par remarquer, dans l'horizon de cette méfiance, qu'il y a en elle, fondamentalement, deux tendances. Une tendance que nous pouvons qualifier de totalitaire, et puis une tendance tout à fait différente, qui se développe dans un tout autre esprit. Juste un mot pour situer une utopie de ce deuxième genre, de ce genre qui n'est pas totalitaire, elle a déjà été évoquée, c'est celle de Rabelais, 1483-1553, avec dans le Gargantua le développement sur l'abbaye de Thélème. Or, quelle est la caractéristique fondamentale de l'abbaye de Thélème? C'est que sa maxime est « fais ce que voudra ». Quand on regarde de plus près ce que veut dire « fais ce que voudra », incontestablement, Rabelais pense se fait ce que voudra dans un horizon chrétien, et faire ce que je veux, c'est faire la volonté de Dieu sur moi. Donc c'est pas exactement une forme d'épicurisme, c'est tout à fait autre chose. Et puis, très remarquable également, c'est que le déploiement des activités dans l'abbaye de Thélème, ce sont des activités qui relèvent de la jouissance, comme lire, écrire, chanter, faire du sport. Voilà, donc il y a cet horizon, et j'avoue que là aussi, que cette utopie-là me convient mieux que l'autre. Et la Cité du Soleil du moine dominicain italien Tommaso Campanella, les dates 1568-1639, la Cité du Soleil de Campanella relève éminemment du premier genre, c'est-à-dire du genre à tendance totalitaire. Cette Cité du Soleil, elle a été rédigée en 1604 quand il est en prison parce qu'il a eu pas mal d'ennuis. Elle a été publiée en 1616, rééditée en 1623, et cette version de réécrite n'a été publiée qu'en 1626. Que dit Campanella? Il raconte la cité découverte par un marin génois. Cette cité est entourée de sept enceinte fortifiée. Alors c'est important, cette histoire d'enceinte fortifiée, parce que la clôture est l'une des caractéristiques fondamentales de l'utopie. Deuxième caractéristique de cette cité, le pouvoir est monarchique, centralisé, ce qui suppose du même mouvement une absolue transparence à l'intérieur de la cité. Et là aussi, la transparence est une hantise de l'utopie. Et nous pouvons trouver dans notre monde contemporain des traces terribles de ce goût pour la transparence. Une espèce de surveillance constante, une sorte de « il va de soi que nous mangeons 5 fruits et légumes par jour », les annonces dans les trains et sur au front des autobus, où on vous parle non pas à distance, mais on vous fait parler. Je monte, je valide. Cette espèce de, on se met à votre place constamment. On vous dit comment vous pouvez vous habiller et comment vous ne pouvez pas vous habiller. Donc il y a cette tendance à la transparence. Le rêve d'une communauté transparente qui n'est pas du tout utopiste, notre monde n'est absolument pas utopique, mais justement par là même, ce monde s'apparente, par certains aspects, pas par la totalité de ce qu'il est, à une utopie réalisée, c'est-à-dire la suppression de l'histoire. Il ne se passera plus rien. Si ce n'est des catastrophes naturelles ou de civilisation. Mais il n'y a pas un avenir vers lequel nous puissions rêver. Si vous voulez, l'absence d'utopie a cette conséquence paradoxale de faire qu'on vit certains aspects de la description utopique, en particulier cette transparence. C'est une hantise de la société. Je reviens un peu en arrière, une certaine conception de la laïcité relève également de ce goût de la transparence. Une communauté où on sait ce que tout le monde pense et où il importe que nous pensions la même chose. Une sorte d'accord sur le consensus vécu comme « ne me faites pas peur » avec des idées que je ne comprends pas. C'est une hantise de notre société, c'est également, bien sûr, une hantise des milieux carcéraux. Enfin, la prison est entièrement conçue comme ce monde dans lequel tout est transparent et tout est uniforme. Troisième caractéristique de la cité selon Campanella, les lois suivent l'ordre naturel des choses et du monde. C'est pourquoi il recourt à l'astrologie. Parce que le cours des astres est quelque chose qui peut être l'objet d'un savoir. Et là, on trouve aussi un trait fondamental des utopies. L'utopie s'articule presque toujours, je crois qu'on peut même enlever le presque, l'utopie s'articule à la volonté de refonder le savoir. Il y a un savoir, une glorification du savoir, derrière le développement des utopies. D'ailleurs, Campanella a été extrêmement intéressé par Descartes. Il a même cherché à le rencontrer. Le discours de la méthode l'a énormément impressionné. Le discours de la méthode est de 1637, donc postérieur à la cité. Descartes ne l'a jamais reçu, il n'avait que mépris pour lui. Et cela parce que Campanella fonde sa théorie de la connaissance sur les sens. Les sens, vous parlez, c'est la première des choses qui sautent lorsque Descartes veut examiner ce qui résiste à la puissance corrosive du doute. La première chose qui saute, ce sont les sens. Disqualification donc pour Descartes de la pensée de Campanella. Mais là aussi, il y a quelque chose d'intéressant et qu'il faut garder en mémoire parce que dans la sensation, il y a le mot sens, c'est-à-dire l'aesthésis, la sensation, le fait d'éprouver. Et donc, il y a quelque chose qui relève de l'esthétique. Là, il y a un élément extrêmement fécond. Plus fécond qu'on ne pourrait croire. Et en particulier, le fait qui est apparu comme complètement dingue à son époque, d'attribuer une sensibilité à tous les moments de l'univers, à toutes les parties de l'univers. Une des propositions pour Descartes, ça relève purement et simplement du délire. Mais c'est une intuition pas si folle que ça. C'est une intuition qui fera son chemin. Et on n'est pas si loin d'auteurs contemporains, en particulier avec cette sorte de renouvellement de la pensée écologique, enfin de manière totalement radicale de revisiter le rapport à la nature et la définition même de la nature. Et là, je vous renvoie, je ne sais pas si ça vous dira grand-chose, mais c'est quand même quelque chose d'intéressant, je vous renvoie à la Gaïa de Bruno Latour. Et je vous renvoie également à des œuvres contemporaines comme La métaphysique du sentiment de Renaud Barbaras. L'idée que dans ce qui se manifeste quelque chose d'extrêmement important et qui n'est pas en face de nous, mais qui est avec nous, en dialogue avec nous. Ça, c'est déjà présent chez Campanelle. Enfin, dernier trait que je relèverai dans la Cité du Soleil, le temps est structuré d'une manière extrêmement précise. Les activités des humains, en particulier l'organisation du travail, tout cela est véritablement verrouillé, chronométré, encadré. Pour le reste, la cité pratique une sorte de communisme. Maison, chambre, lit, tout en un mot est commun entre eux. Il y a une structure politique qui est en fait une organisation avec des magistrats, mais des magistrats qui sont sous contrôle de l'opinion publique en quelque sorte. Puisque tous les citoyens à partir d'un certain âge sont consultés, quel que soit leur sexe, fort important, et quelle que soit leur condition sociale. Tous les individus au-dessus de 20 ans sont admis à donner leur avis sur l'état de la République, je le cite, à faire valoir leurs plaintes contre les magistrats ou à leur accorder des éloges. Tous les 8 jours, les magistrats se rassemblent et ils organisent un avis. Je n'entre pas dans les détails, mais là aussi, il y a quelque chose qu'on retrouve dans l'essence même de l'utopie, c'est le lien au travail. Il y a un lien très fort entre l'utopie et le travail. Ça va ? Donc, quelques mots encore sur une autre utopie, celle de Francis Bacon, 1561-1626. Francis Bacon a écrit La Nouvelle Atlantide en 1627. Mais c'est pas l'essentiel de son activité. Il y a des points communs avec Thomas More. Il est chancelier d'Angleterre. Il va connaître la disgrâce. On ne le coupera pas en morceaux, mais on l'enfermera dans la tour de Londres. Il perdra tous ses titres, toutes ses dignités, toutes ses fonctions. Puis ensuite, il sera réadmis, réhabilité. Mais il ne s'occupera plus de vie politique. À la différence de Thomas More, et contrairement à ce que Patrick Goujon disait hier, il n'est pas vertueux du tout. Et il a une vie privée absolument scabreuse. On ne compte pas ceux qui sont entrés dans son lit, quel que soit leur sexe. Mais pour l'essentiel, pour la postérité, et si Kant lui a dédié l'une de ses critiques, c'est à cause de son œuvre scientifique. Il a écrit de la dignité et de l'augmentation des sciences. Il a écrit, c'est le plus connu, le Novum Organum, le nouvel instrument. Et là, il est fondateur de la science expérimentale. La critique qu'il adresse à la science de son temps, c'est de projeter des schémas sur le réel au lieu de se laisser informer par lui. Ce en quoi d'ailleurs il se sépare de Descartes. Descartes est un très puissant philosophe. C'est un puissant mathématicien. C'est aussi, c'est moins connu, mais un prodigieux moraliste. Là, il faut lire le traité des passions. Enfin, il faut lire les passions de Descartes. Mais c'est un physicien absolument nul. Et c'est un physiologiste encore plus nul. Enfin, les Anglais sont en train d'établir le rôle des poumons, de l'oxygénation du sang, de la circulation sanguine. Lui, il en est encore à faire bouillir le sang dans le cœur. Enfin, c'est quelque chose d'assez épouvantable. Enfin, non, Descartes est un mathématicien. C'est vraiment quelqu'un de l'esprit, de la puissance de l'esprit, mais il n'a pas fondé la science expérimentale. Simplement deux mots sur l'Atlantide, mais vraiment deux mots. C'est une île. Donc c'est l'équivalent des sept murailles fortifiées de la cité du soleil. Et ceux qui gouvernent, eh bien c'est une société savante, qui s'appelle la maison de Salomon. Au fond, c'est une technocratie qui est proposée. Enfin, c'est une. Ou quelque chose qui relèverait du mandarinat. Enfin, ce sont les savants qui doivent gouverner. Il y a bien d'autres utopies. Il n'y a pas de siècle qui n'en comporte. Mais je vais faire un saut dans le temps, parce que la fibre utopique se développe à nouveau de manière très significative au XIXe siècle. D'abord Saint-Simon. (1760-1825). Qui publie le Nouveau Christianisme. Il le publie à la fin de sa vie. Et au fond, ce qu'il développe, c'est une religion de la science. Il est de la même famille que le duc de Saint-Simon et ses mémoires du XVIIe-XVIIIe siècle. Alors que dit Saint-Simon? Premièrement, remplacer l'idée de Dieu par celle de gravitation universelle. Prodigieux, hein? Et ce qu'il s'agit de mettre au centre, c'est pas tellement la physique newtonienne, avec la gravitation universelle, c'est que la réduction à un principe qui va permettre de mettre le travail au centre de la vie des hommes. Il s'agit de développer l'industrie et de tout ordonner autour de son développement et en fonction d'elle. Le saint-simonisme aura en fait une influence directe et considérable sur le développement industriel et colonial français. Canal de Suez compris. Mais en même temps, le saint-simonisme déclare qu'il est une spiritualité. Une spiritualité qui retrouve dans le développement de l'industrie, parce que la richesse produit des liens entre les personnes, le contenu même du christianisme. Et il prend comme devise de la société qu'il espère, aimez votre prochain comme vous-même, et les hommes doivent se regarder comme frères. Ce qui fait passer un frisson dans le dos quand on songe aux affiches du diocèse de Paris. Faisons l'apologie du catéchisme. Aimez-vous les uns les autres, citation de Luc, leur transmettre plus que la foi. Ce qui est d'une hérésie parfaite. La foi ne se transmet pas, elle se propose. Puis cette idée, de dire, bon, il y a les choses sérieuses dans le christianisme, aimez-vous les uns les autres. Et puis il y a le folklore. La foi. Donc envoyez vos enfants au catéchisme, ils y apprendront, mais ils y apprendront le saint-simonisme. Ce qui me permet par une déduction peut-être hasardée, qu'on a demandé le slogan non pas à des théologiens ou à des pasteurs, on l'a demandé à une agence de publicité peuplée de saint-simoniens, qui habitués à vendre des yaourts, ont dit, mais bon, qu'est-ce qu'il y a de sérieux dans leur histoire, etc. Saint-Simon a écrit aussi sur la querelle des abeilles et des frelons en 1819. Il y a les gens utiles dans la société et puis il y a les frelons inutiles. Il vaut mieux être une abeille qu'un frelon. Mais ce qui me paraît fort intéressant, c'est que cette querelle des abeilles et des frelons a été réédité en 2012, chez D'ores et Déjà. Et ce que je trouve extrêmement significatif, c'est la présentation que l'éditeur en fait, la quatrième de couverture. La parabole montre que l'essence du politique n'est pas là où on le voit dans l'État. Deux points. Il est dans la force invisible de ceux qui produisent les richesses économiques. Le pouvoir et l'appareil d'État ne sont qu'un corps dont l'âme et l'esprit sont dans la production. Ces suppositions mettent en évidence le fait le plus important de la politique actuelle. Elles placent un point de vue d'où l'on découvre ce fait dans toute son étendue et d'un seul coup d'œil. Ces suppositions font voir que la société actuelle est véritablement le monde renversé. Bon, il faudrait faire un groupe de travail sur ce texte. Parce que, d'abord, il montre la présence dans le libéralisme contemporain d'une forte imprégnation, d'une forte dose de saint-simonisme. Ensuite, c'est intéressant cette disqualification de l'État et du politique. C'est pas l'État, donc c'est pas la politique qui compte. Le politique fait marcher les choses à l'envers, la véritable dimension, c'est l'économique. La société actuelle est véritablement le monde renversé, dit l'éditeur. Alors il faudrait pouvoir montrer toute l'ironie qu'il y a là-dedans, enfin l'ironie involontaire qu'il y a là-dedans. Parce que la proposition, 1, l'économique l'emporte sur le politique. 2, nous vivons dans un monde renversé, c'est deux propositions de Marx, le pire ennemi du libéralisme. Ça va toujours ? Comme je me plais à dire souvent, si vous avez l'impression que votre voisin ne suit pas, dites-le. Avec Charles Fourier, Fourier est né en 1772 et mort en 1837, avec le Nouveau Monde industriel qu'il écrit en 1820, et ensuite dans la revue qu'il dirige de 1832 à 1849, eh bien on a affaire à une nouvelle utopie très différente du saint-simonisme. Et par certains aspects, elle appartiendrait aux utopies du deuxième genre. Mais enfin quand même, elle a bien des caractères aussi de l'utopie à tendance totalitaire. Il s'agit d'organiser la société en phalanges de 1620 personnes chacune, réunies selon une combinatoire de caractères, de traits, correspondant à ce qui passionne ces personnes. Donc il y a cet aspect de jouissance, hein, cet aspect d'être attiré par quelque chose. Mais on vous organise en phalange. Or, remarque Fourier, il y a une attirance naturelle des humains pour l'activité et une attirance naturelle des humains pour la vertu. Mais cette attirance naturelle a deux ennemis. Le premier ennemi, c'est le travail. Alors là, c'est en quoi il est très original par rapport aux utopies qui s'organisent habituellement sur l'organisation du travail. Le travail étant, je cite, un état où l'homme s'impose à regret un supplice. Et puis le deuxième ennemi, c'est la morale. Je cite encore, mortel ennemi de l'attraction passionnée. Les phalanstériens, guidés par leur passion, ne connaissent ni la monotonie ni la fatigue. Ils parcourent le monde librement. Ce sont des espèces d'aventuriers. Leurs journées sont longues et leurs nuits sont brèves. Et ils mènent une vie haletante, pleine de joie, qui les dirige peu à peu vers une vieillesse belle et respectée. Le fourierisme, il est intéressant. C'est le seul utopiste que Marx considère comme ayant dit quelque chose. Il a même eu un début d'application. Par la médiation d'un industriel fabriquant des poêles, les poêles Godin. Ça existe encore, non? Donc il s'installe, alors, Godin s'installe en 1846 à Guise, dans l'Aisne. Il a fait fortune dans la fabrication d'appareils de chauffage et il organise un palais social en 1858 où les ouvriers sont logés avec toutes les conditions d'hygiène les plus pointues de l'époque, avec une prise en charge de la scolarité des enfants, enfin vraiment une organisation sociale qui marchera plus ou moins, enfin qui existera pratiquement jusqu'en 1968. Le palais social dans lequel il loge ses ouvriers a été construit par un architecte disciple des théories de Fourier, Victor Calon. Alors, par bien des aspects, si le travail a été comme expulsé du centre de l'utopie, il est quand même présent, c'est quand même une organisation du travail. C'est un industriel, il fabrique des appareils de chauffage. Mais il s'oppose vraiment à l'esprit saint-simonien et Fourier a deux haines. La haine de l'industrie considérée comme une religion et le commerce. Il a été totalement traumatisé à un moment de sa vie où il est simple ouvrier, il est obligé par son patron de jeter du riz à la mer pour maintenir le cours du riz. Puis il y a un autre épisode. Il voit son beau-frère Brillat-Savarin. Brillat-Savarin, ça vous dit quelque chose? C'est un gastronome. C'est aussi un magistrat. C'est un magistrat et un magistrat qui s'est exilé en Amérique pour ne pas avoir à appliquer la terreur. Donc c'est quelqu'un qui réfléchit, qui pense. Bon, et Brillat-Savarin mange sous les yeux de Fourier dans un restaurant une pomme. Or, lui-même, Fourier, le matin même à Rouen, a mangé une pomme qu'il a achetée 100 fois moins chère. Et donc, il en déduit que dans l'histoire du monde, il y aura eu 4 pommes fondamentales, celle d'Adam et Ève, celle de Paris, choisissons Aphrodite, celle que Newton a reçue sur la tête, et la pomme mangée par son beau-frère. Voilà, alors, de là, me semble-t-il, on peut tracer quelques-uns de ces traits définissant l'essence de l'utopie. Premièrement, elle est toujours issue d'une protestation. Deuxièmement, elle est la description imaginaire d'une société qui accomplirait l'essence de la vie humaine s'il n'y avait pas les contraintes du mal. Elle est le plus souvent hors sol, une île, quelque chose de clos, hors sol comme un conte, mais un conte sans merveilleux. Un conte où le merveilleux est remplacé par la transparence d'une rationalité généralement mathématique. Et par conséquent, elle est par essence totalitaire en étant organisation minutieuse du temps et de l'espace. Ce qui fait qu'elle entretient un lien très profond avec l'architecture et l'urbanisme. D'ailleurs, j'ai vu qu'un architecte avait été convoqué. Parce qu'il y a un lien extrêmement profond entre l'architecture et l'urbanisme. Enfin, je ne sais pas s'il y a un lien direct, mais Le Corbusier a quand même baptisé l'ensemble construit à Marseille la Cité Radieuse, ce qui rappelle quand même beaucoup le Campanella, la Cité du Soleil. Et puis, habitant rue Brille à Savarin, j'habite dans un immeuble où il y a des caves, comme dans tous les immeubles parisiens. Mais une partie des caves, quand vous entrez dans la section des caves, vous avez marqué au-dessus « séchoir ». Donc ça veut dire que l'architecte avait imaginé que les ménagères iraient faire sécher ensemble leur linge. Enfin, on voit bien qu'il y a la trace dans l'idée que l'architecte s'est fait en construisant cet immeuble de 10 étages, perché sur pilotis parce que le quartier c'est un marécage. Il avait bien l'idée qu'il fallait qu'il y avait un modèle de communauté à transcrire dans les murs eux-mêmes. Ce qui me fait dire que l'utopie est résolument du côté de la ville par opposition au jardin. Le jardin, lui, il ne renvoie pas au futur d'une vie possible, artificielle, volontariste. Mais il renvoie au paradis perdu. Qu'il est peut-être possible de reconstituer à condition de trouver le bon enclos. Vous savez que hortus, qui est jardin en latin, ça renvoie à la fermeture, à la clôture. Pourquoi exhorter, c'est parler suffisamment fort pour qu'on vous entende de l'autre côté du jardin. Voyez également le lien du jardin et de la passion amoureuse. L'amour de moi s'y est enclose. À l'idée d'un cercle dans lequel la passion peut se développer. Ou bien encore, comment imaginer que les tapisseries de la Dame à la licorne ne soient pas dans un jardin. Il y a aussi les jardins de l'Orient, évoqué par Michel Foucault dans un article de 1967 qui n'a été publié qu'en 1984, où Michel Foucault fait remarquer à quel point les tapis de l'Orient sont des jardins. Afin qu'on puisse emporter le jardin avec soi quand on est nomade. Et le jardin, dit-il, appartient non pas à l'utopie, mais aux hétérotopies. Les hétérotopies, ce sont les lieux qui existent, pas des utopies. Elles ne sont pas imaginaires mais réelles, mais elles sont quand même des mondes, comme les hôpitaux, les maisons de retraite, les prisons et, très curieusement, ajoute-t-il, les cimetières. Donc l'utopie n'est... Il y a encore un jardin que je voudrais vous signaler. Dans le roman de Jean-Jacques Rousseau, qui s'appelle « La Nouvelle Julie » ou « La Nouvelle Héloïse », il y a la description d'un jardin absolument merveilleux, le jardin d'une famille qui s'appelle les Volmar. Et c'est un jardin d'allure totalement sauvage, mais qui est entièrement artificiel. Et la seconde caractéristique, lorsque vous avez trouvé l'entrée, vous entrez dans le jardin, mais vous ne voyez plus la sortie. Alors, l'utopie n'est pas du tout de ce côté-là. L'utopie est du côté de la ville, et elle est du côté, moi je dirais qu'elle est du côté de Enoch. Alors, en général, l'histoire de Caïn et Abel, on arrête l'histoire à l'œil était dans la tombe et regardez Caïn de Hugo, il y a des choses remarquables dans l'histoire de Caïn d'Abel et Caïn. Il y a le fait que Caïn soit marqué d'un signe, interdiction de le toucher. C'est vraiment la naissance de la justice pénale. Il est sacré. Vous n'y touchez pas. Vous le jugez si vous voulez, vous le condamnez, mais il est protégé. Et la deuxième chose, c'est que l'histoire ne s'arrête absolument pas là. Caïn se marie, il a un fils, Enoch, et il est le premier urbaniste. Il appelle d'ailleurs la ville Enoch. C'est saisissant parce que Rome est fondée sur un fratricide. Comme si la ville, dont toute la connotation est de douceur, urbanité, politesse, civil, tout ça renvoie étymologiquement à la cité, en grec ou en latin. Mais à chaque fois, il y a une violence inouïe et fratricide, comme si la ville était construite sur la sublimation de la violence, la transfiguration de la violence. Alors, il est possible de dire, me semble-t-il, que l'utopie se fonde sur l'exclusion du mal sur lequel pourtant elle se fonde. Et à ce titre, par l'exclusion du mal et cette construction artificielle, close, etc., enfin toutes les propriétés qu'on a vues, l'utopie est profondément non politique. Il y a une organisation de la vie, mais il n'y a pas de vie politique parce qu'il n'y a pas de conflit. La politique commence lorsque le conflit n'est pas une modalité de l'éclatement de la communauté, mais une modalité de la constitution même. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est pourquoi nous appartenons à la même communauté. Ça, c'est une proposition politique. Elle est non politique, elle est anhistorique, elle est achèvement de l'histoire, et elle est, malgré quelques apparences, elle est athée. Elle est athée parce qu'elle est entièrement fabriquée par les hommes. Je ne sais pas si c'est très convaincant ce que je dis, puisqu'on pourrait me dire, mais non, mais regardez. Non, non. Et si vous regardez la structure même de cette communauté, elle est sans Dieu. Et alors, pour vous en convaincre, je ne vous renverrai pas à une utopie, mais à un autre texte fondamental de la vie politique, qui est le Léviathan de Hobbes, qui est une construction, le politique est une, dit Hobbes, est une construction humaine entièrement artificielle, un Dieu mortel. Et ça n'empêche pas Hobbes d'être chrétien et de déclarer qu'il est en train de fonder une politique chrétienne, mais dans la clôture de l'artifice de la construction des hommes, il n'y a pas de place pour Dieu. Si vous voulez voir une architecture athée, mais profondément athée, pas athée par propagande, allez voir les salines d'Arquesenant, construites par Ledoux, sur ordre de Louis XV, une architecture horizontale. Voilà les trois traits fondamentaux de l'utopie, mais il y a un quatrième trait. Et ce quatrième trait, il permet la réintroduction du politique, de l'histoire, de la transcendance. Et cela parce qu'elle ne croit pas à elle-même. Il est aussi dans son essence de ne pas vouloir être réalisé. Alors au XIXe siècle, oui, il y a des tentatives de réalisation de ces utopies. Mais rappelez-vous, pas chez Thomas More, par exemple. Elle est l'utopie, l'anticipation sous une forme ludique de ce qui est réellement attendu, mais qui justement ne peut pas, ne doit pas être figuré, ne doit pas être cru. Ce qui n'empêche pas d'en donner des images dont on sait que ce sont seulement des images. Ce qui n'empêche pas d'en donner des déterminations, mais en sachant qu'elles ne sont pas destinées à être appliquées. Ce dernier trait, qui n'est pas d'ailleurs présent dans toutes les utopies, mais qui, à mon avis, fait vraiment partie de son essence, ce dernier trait, il inscrit l'utopie dans le même horizon herméneutique que le prophétique et que l'annonce du royaume. C'est-à-dire, dire la vérité sur ce qui vient, mais par exemple, en utilisant, dans le cas du prophétisme, des choses qui se sont passées et que l'on reprojette vers l'avenir, pour dire, eh bien voilà, c'est le sens même de ce qui vient vers nous, ou bien cette affirmation que le royaume est parmi nous, que nous l'attendons, mais qu'il est déjà présent, qu'il est une ouverture vers ce qui vient, qui qualifie ce que nous vivons, mais dont nous ne pouvons pas dire non plus qu'il est accompli. Il est s'accomplissant. Or, il y a ce trait qui est présent dans les utopies. Si ces quatre traits sont exacts, alors l'utopie menée jusqu'à son terme permet d'affirmer que l'idéologie allemande écrite par Marx et Engels entre 45 et 46, l'idéologie allemande est le modèle vraiment important, vraiment, enfin, ça vaut la peine d'aller voir ce qu'il y a dedans, de l'utopie. Voilà, on en est au milieu là, à peu près de ce que j'avais à dire, et donc reniant ma propre parole, non, ce n'est pas à 45 qu'on marquera la pause, mais à 43. Parce que là, on a une articulation. Donc, on se retrouve à 11h, ce qui fait qu'on a gagné 2 minutes de récréation supplémentaire, ce qui est l'accomplissement de l'utopie la plus folle.
Alors, s'il vous plaît, prenez place. Prenez place, s'il vous plaît, que nous puissions recommencer.
Je reprends là où j'en étais resté, c'est-à-dire à l'idéologie allemande. En fait, ce texte, c'est l'adieu de Marx à la philosophie. C'est le dernier texte philosophique de Marx. Après, il passe à autre chose et je reviendrai là-dessus. Que trouve-t-on dans l'idéologie allemande ? D'abord, une anthropologie. Et une anthropologie tout à fait sérieuse, absolument pas utopique, en disant que les hommes sont d'abord des êtres historiques, des êtres qui ont une histoire. Et pour fonder son anthropologie, Marx essaie de déterminer quel est le premier fait historique. Quel est le premier fait historique ? Et il écrit ceci : on peut distinguer les hommes des animaux par la conscience, par la religion, et par tout ce que l'on voudra, eux-mêmes commencent à se distinguer des animaux dès qu'ils commencent à produire leurs moyens d'existence. C'est assez génial, parce que ça veut dire, vous pouvez imaginer des choses sur les hommes, mais qu'est-ce qui fait que, en réalité, vous vous dites, nous sommes en face d'êtres humains ? Eh bien, lorsque vous trouvez des outils. Lorsque vous trouvez des outils, un outil étant un objet qui a lui-même été fabriqué par le maniement d'autres objets et qui est stocké. Sinon, à ce titre, il n'y a pas d'outils dans le monde animal, effectivement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Produire ces moyens d'existence, ça veut dire les hommes ne pourraient pas vivre s'ils n'étaient pas continuellement en train, d'une manière artificielle, de se donner de quoi manger, de quoi se vêtir, etc. Mais, je cite encore Marx, la façon dont les individus manifestent leur vie reflète très exactement ce qu'ils sont. Fin de citation. C'est une espèce d'existentialisme. Hein. Ça veut dire les hommes se produisent eux-mêmes en produisant leur vie. Et c'est ce que Marx appelle être matérialiste. Mais être matérialiste chez Marx, ça ne veut absolument pas dire qu'il ne croit pas à l'esprit, par exemple, ou des choses de cet ordre. Matériel chez Marx veut dire qu'il n'exclut rien. Ma vie matérielle, c'est le fait de dire, bon, c'est vrai, il est important, les choses qui ont été dites pour me présenter étaient importantes, mais le petit déjeuner que j'ai pris ce matin est au moins aussi important dans la détermination de ma manière de vivre que les études que j'ai faites ou des choses de cet ordre. On ne laisse rien de côté quand on est matérialiste au sens de Marx. Donc, le premier fait historique, c'est la production des moyens permettant de satisfaire les besoins. Et le second point, dit Marx, c'est que le premier besoin, une fois satisfait, il en est, du verbe naître, d'autres. Lorsque le lion a mangé, enfin du moins tous les lions que je connaisse, lorsqu'il a mangé, il s'endort. Et il se réveillera que pour manger à nouveau en utilisant des techniques sophistiquées. D'ailleurs, c'est les lions qui chassent, lui il attend. La caractéristique essentielle de l'homme, c'est qu'il est un être non pas de besoin, mais de désir. Et que quand il satisfait ses besoins augmentent. Le troisième rapport, je cite Marx, qui intervient ici, est que les hommes se reproduisent. Non seulement, fin de citation, qui d'ailleurs était, j'ai fait sauter des choses, le troisième moment, c'est le moment de la famille, dit Marx. Les hommes se reproduisent, non seulement ils produisent leur existence, mais ils produisent d'autres hommes. Et pour produire d'autres hommes, ils inventent des structures qui sont les structures de la parenté. Le quatrième moment, c'est que la production demande un mode de coopération déterminé. L'organisation sociale est directement articulée au mode de production de la communauté humaine prise en considération. Donc la société est organisée, elle est organisée pour permettre la production de la vie Et là, à nouveau, je cite Marx. Et c'est maintenant seulement, après avoir déjà examiné quatre moments, quatre aspects des rapports historiques originels, que nous trouvons que l'homme a aussi de la conscience. La conscience vient en dernier. Qu'est-ce que c'est que la conscience, dit Marx ? C'est le langage. Deux remarques sur cette anthropologie. Première remarque, elle est extrêmement puissante. J'en connais peu d'aussi puissantes. J'en connais une autre, celle de Saint-Augustin, dans le De Trinitate. L'homme est mémoire, intelligence et volonté. Ça, c'est insurpassable, vous le retrouvez partout. Et puis cette anthropologie de Marx, que vous trouverez difficilement en défaut. On peut lui trouver des failles, mais c'est extrêmement fort. Et la deuxième remarque, c'est que, attention, il ne dit pas « il y a d'abord les outils, puis il y a la parenté, puis il y a l'organisation sociale, puis il y a le langage ». C'est quatre aspects de la même réalité. C'est-à-dire, c'est simultané. Et qu'est-ce que ça veut dire, cet ordre hiérarchique ? Ça veut dire que si vous partez de l'affirmation « l'homme est cet être paradoxal qui produit sa propre existence », vous retrouverez toutes les déterminations, y compris les déterminations de la pensée. Et si vous partez de l'autre bout en disant « l'homme est un être qui pense », vous serez incapable de considérer comme véritablement important le fait qu'il travaille, le fait qu'il transforme la nature, le fait qu'il soit cet être qui produit ses propres moyens d'existence. Cette anthropologie, elle va servir à définir l'action que Marx entend mener. Elle va être à la base de toute sa théorie, à la base du Capital, à la base de l'action, des actions qu'il mènera. Il va l'abandonner à la critique rongeuse des souris, dit-il. Il ne le publiera pas de son vivant, elle ne sera pas publiée de son vivant. Mais elle est présente. Elle est présente à la racine. Deux mots encore sur l'idéologie allemande, avec cette anthropologie si forte. Elle se termine par un chapitre sur le communisme, c'est-à-dire l'aboutissement du travail que l'histoire des hommes, vraisemblablement, va accomplir maintenant, à partir des années 40, des années 1840. Ce que vise Marx, c'est l'accomplissement de l'homme comme individu, pas comme collectivité, comme un individu qui vaut par les relations sociales qu'il a, etc. Mais il y a chez Marx cette idée très forte, je cite, « l'état de choses que crée le communisme » est précisément la base réelle qui rend impossible tout ce qui existe indépendamment des individus. Donc il y a un humanisme de Marx et qui est un humanisme du respect de l'individu. Enfin, alors ce n'est pas dans le chapitre sur le communisme, c'est au début de l'idéologie allemande, il y a ce petit passage qui pour moi et pour notre thème est tout à fait significatif, je vous le cite. Dans la société communiste, où chacun n'a pas une sphère d'activité exclusive, mais peut se perfectionner dans la branche qui lui plaît. Ça rappelle un peu Fourier, hein ? La société réglemente la production générale, ce qui crée pour moi la possibilité de faire aujourd'hui telle chose, demain telle autre, de chasser le matin, de pêcher l'après-midi, de pratiquer l'élevage le soir, de faire de la critique après le repas, selon mon bon plaisir, sans jamais devenir chasseur, pêcheur ou critique. Totalement utopiste. Et même dérisoire. Enfin, je peux être pêcheur, je peux aller à la pêche à la ligne le matin, je peux chasser le lapin l'après-midi, élever des bovidés le soir et faire de la critique après le repas. Et là, l'utopie prend un sens nouveau qui dépasse de très loin la protestation rêvant d'un autre monde. Marx développe une utopie parce qu'il a trouvé les bases réelles d'une compréhension de ce que sont les hommes. Autrement dit, l'utopie est un effet secondaire d'un enracinement puissant. Vos utopies vaudront la théorie philosophique que vous mettez à la base. Et si la théorie philosophique que vous mettez à la base, c'est simplement le scientisme, par exemple, votre utopie ne vaudra rien. Si vous mettez quelque chose de réel à la base, comme la compréhension des hommes comme produisant leur propre mode d'existence, alors là, votre utopie prendra un tout autre sens et sera le déploiement imaginaire, ludique, de l'accomplissement du futur. Remarque sur ce point, l'utopie n'est pas en tête, elle n'est pas ce qui produit quelque chose, mais c'est un effet secondaire. C'est pourquoi Marx va le laisser de côté. Ça va ? En ce sens-là, le christianisme lui-même apparaît comme une utopie. Parce qu'il ne prétend pas instaurer le ciel sur la terre, mais il prétend déployer, à partir d'une base réelle, une compréhension réelle de la réalité, ce que signifie l'accomplissement de l'humanité. Et cette compréhension du christianisme, c'est, contrairement à ce que l'on dit si souvent, c'est aussi la compréhension que Marx en a. Il y a un texte qui vraiment est l'objet des contresens les plus hallucinants qu'on puisse rêver. La misère religieuse, je vous cite le texte de Marx. La misère religieuse est tout à la fois l'expression de la misère réelle et la protestation contre la misère réelle. La religion est le soupir de la créature accablée, l'âme d'un monde sans cœur, de même qu'elle est l'esprit d'un état de choses où il n'est point d'esprit. Elle est l'opium du peuple. S'il y a un adjectif qui, chez Marx, recueille toute son adhésion, tout son appui, c'est le mot réel. Le mot réel a chez lui le même sens que matériel, c'est-à-dire qu'il ne laisse rien hors de lui. Et donc, la misère religieuse, car la religion, à ses yeux, effectivement, est une misère, ce n'est pas le dernier mot, elle est l'expression de la misère réelle. Elle est la protestation contre la misère réelle. Elle est l'âme d'un monde sans cœur. Il ne dit pas le semblant d'âme, il dit l'âme d'un monde sans cœur. Elle est l'esprit, la seule présence de l'esprit, dans un monde privé d'esprit. Et quand il dit elle est l'opium du peuple, tout le monde comprend, d'une part que j'ai perdu mon verre, ça y est, je l'ai retrouvé, et d'autre part, que la religion sert à endormir le peuple pour qu'on puisse mieux l'exploiter, mais ce n'est pas ça du tout le sens. Le sens, c'est quand vous êtes devant une réalité invivable, et tout le monde est devant une réalité invivable, même les bourgeois. Quand vous êtes devant une réalité invivable, il n'y a qu'une manière de vous en sortir, l'imaginaire. Vous pouvez recourir à la drogue, l'opium, c'est hors de prix. Et vous avez la religion, qui elle est gratuite. Mais l'opium que prend le bourgeois l'endort. L'opium du peuple, c'est la protestation réelle contre la misère réelle. Donc le regard de Marx sur la religion, ce n'est pas tout à fait ce qu'on en dit habituellement. Et ça revient dans le sens d'une compréhension du christianisme comme quelque chose qui a perçu le monde à l'envers, il suffirait de le remettre à l'endroit. Alors, la question devient, si l'utopie peut se développer à la mesure du savoir qui la fonde, à la condition que ce savoir ne soit pas un savoir clos, mais ouvert à une suite inimaginable, infigurable. Alors la question est celle-ci. Est-il possible de faire en sorte que l'imaginaire soit le premier? Est-il possible d'avoir une utopie active? Non pas une utopie effet secondaire, mais une utopie active. Il est clair que ça n'est pas la voie que Marx a suivie. Au contraire, l'idéologie allemande, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'adieu à la pensée spéculative philosophique, l'adieu à l'imaginaire comme force de transformation. En revanche, c'est, selon la célèbre formule du manifeste du Parti communiste, les philosophes ont interprété le monde, il s'agit maintenant de le transformer. Donc une intelligibilité, une production des conditions de l'émergence de la pensée par l'action et la lutte, et croyez-moi, ça ne va pas être drôle. Parce qu'il va falloir passer par la violence de la révolution, la dictature du prolétariat qui s'empare de l'État, et alors seulement, dit Marx, le communisme sera possible. Après. Quels sont ceux d'entre vous qui ont vu le dessin animé de Grimaud, de Paul Grimaud, Le roi et l'oiseau ? Le, Parce que le roi et l'oiseau, c'est Marx en dessin animé. Vous avez alors c'est tiré d'un conte d'Andersen, La bergère et le ramoneur. Et donc je m'adresse surtout aux quelques, aux happy few qui a vu le roi et l'oiseau. Mais que font la bergère et le ramoneur? Ils s'emparent d'un gigantesque robot qui est l'appareil de l'État. Que fait ce robot quand ils sont aux commandes? Il détruit l'intégralité de la ville. Et ils ont d'ailleurs préalablement lâché les lions. Les lions, c'est la révolution. Il y a une vieille dame qui est à son balcon, qui voit passer les lions, et qui dit « Jamais je n'aurais imaginé que les oiseaux avaient cette forme, parce qu'on lui a toujours promis que la révolution amènerait le règne des oiseaux. » En fait, c'est les lions qui sont lâchés dans les rues. Mais rappelez-vous, la fin du film, c'est absolument extraordinaire. Normalement, l'État s'effondre. La dictature du prolétariat s'effondre sur elle-même et surgit enfin l'histoire des hommes. Le robot s'effondre et il prend la position du penseur de Rodin. La pensée arrive. Donc, l'utopie chez Marx, elle est présente. Elle est fondée sur quelque chose de très puissant, que l'on pourrait critiquer. Enfin, je n'ai pas le temps de mener cette critique. Mais elle est abandonnée. Comme utopie, elle est abandonnée et remplacée par l'action. En revanche, c'est bien la voie qui a été empruntée par Ernst Bloch, B-L-O-C-H, 1885-1977, Bloch a écrit un énorme pavé qui s'appelle Le Principe Espérance. Il l'a écrit entre 1954 et 1959. Et lisez Le Principe Espérance, lisez surtout la préface. Et là, je me référerai uniquement à la préface. Ernst Bloch est marxiste, mais vraiment très, très différent des autres. Et d'ailleurs, il est en Allemagne de l'Est, il tombera en disgrâce. Voici ce que dit Le Principe Espérance. Je cite, « Il est dans la nature même de l'homme de ne se prononcer qu'à partir de l'avenir. » Dès lors, fin de citation après avenir, c'est tout un pan de l'activité humaine qui se trouve visé, celui d'une sorte de savoir, plus ou moins enfoui, plus ou moins conscient, qui permet justement de s'orienter à partir de l'avenir. De s'orienter à partir de l'avenir. Que l'avenir ne soit pas simplement imaginé à partir de bases réelles, mais que ce soit lui qui soit le point d'attraction, qui soit ce qui nous entraîne. Cette région, Bloch l'appelle utopie. Et il écrit « Le phénomène gigantesque de l'utopie dans le monde est un des moins élucidés et des moins expliqués. » Et un peu plus loin, « Ce livre est en majeure partie consacré à la tentative de donner une dimension philosophique à l'espoir situé dans le monde, peuplé comme la meilleure des terres cultivées, et aussi inexploré que l'Antarctique. » donner une dimension philosophique. Ressurgissement de la philosophie dans le marxisme, alors qu'elle était balayée comme étant ce qui a permis de mettre au point une anthropologie, etc. Réhabilitation, si j'ose dire, de la pensée apparemment inefficace. Parce que la philosophie n'a absolument pas vocation à être appliquée. La vocation de la philosophie, moi je dirais que c'est intensifier le monde, donner plus d'intensité à la réalité. Alors, ce par quoi, indirectement, elle participe évidemment à la possibilité de l'action. Mais du coup, dans la pensée même d'Ernst Bloch, la philosophie a une valeur d'utopie, et elle a cette valeur d'entraîner vers une action qu'elle n'est pas. Et là, dans cette articulation entre pensée philosophique, utopie et action, Ernst Bloch dit « Seule une pensée orientée vers la transformation du monde concerne l'avenir ». Donc l'articulation à l'action est immédiate. Immédiate, mais pas identique. Immédiate, simplement. Dès lors, il faut transformer notre rapport au temps. Jusqu'à présent, dit Bloch, il y avait des utopies, mais elles se croyaient tournées vers l'avenir, alors qu'en réalité, elles étaient tournées vers le passé. C'était, je cite, l'aube tournée vers l'arrière. Et là, il fait un pas décisif. Il y a dans le présent, voire dans l'objet remémoré lui-même, une sorte d'élan interrompu, une gestation et une anticipation de non encore devenu, et cette éclosion arrêtée ne se produit pas dans le souterrain du conscient, mais en première ligne de son front. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, comment nous nous inscrivons dans le présent ? Quelle est la part la plus réelle du présent ? La part la plus réelle du présent, ce n'est pas ce qui est présent, c'est ce qui va surgir. C'est le futur immédiat, le non encore advenu et qui va advenir. L'immédiat, le présent le plus présent, est ce qui va maintenant arriver. Une anticipation virtuelle, et j'insiste sur le mot virtuel, ce n'est pas un pléonasme ce que je viens de dire, parce que dans virtuel, il y a vire, il y a la force. L'image qui m'est venue à ce moment-là pour essayer de dire ce qu'il y avait là appartient à un monde qui m'est totalement étranger. J'avais vu une interview d'un footballeur. Je sais ce qu'est être ignorant en un domaine, je sais ce qu'être un cancre. C'est mon savoir du football. Mais il disait des choses, une chose absolument remarquable. Il disait que le moment de la plus grande jouissance, c'était le moment où il savait qu'il allait marquer un but, mais qu'il n'avait pas encore frappé le ballon. C'est génial. C'est ça la réalité. C'est ça ce moment où l'utopie, ça n'a pas eu lieu, s'articule à la plus vive réalité. Alors, ce futur immédiat, ce temps le plus réel, c'est le présent, et dit Ernst Bloch, ce présent contient l'énigme réelle du monde. L'énigme, c'est une énigme, c'est pas advenu. La plus réelle, c'est au sens marxiste du mot réel, total, du monde. Et pour le voir, on a besoin de la alors je cite Bloch, on a besoin de la longue vue la plus puissante, celle de la conscience utopique la plus aiguë, pour pénétrer la proximité la plus proche. L'utopie, c'est ce qui éloigne à l'infini ce qui va se produire immédiatement, parce que dans ce qui va se produire immédiatement, il n'y a pas seulement le présent qui arrive, il y a l'énigme du monde, la mise en perspective du monde. Alors, il faut donner un contenu. Il faut donner un contenu à ce que Bloch vient de tracer à grands traits. Il faut faire l'hypothèse d'une intelligence collective. Cette intelligence collective, Bloch dit, pour la désigner, l'intelligence du peuple. Et la formulation de cette intelligence s'accomplit toujours par des récits. Et là, bien sûr, on pense à la chanson de Renaud. Or, les récits circulant dans une société donnée, dit Bloch, en général, ça embellit la réalité conformément aux vœux de la classe dominante. Mais le phénomène, je cite, se purifie totalement lorsque le miroir est tendu par le peuple et reflète le monde merveilleux qui est le mieux visible dans le conte. Cette mise en perspective va s'ouvrir d'une façon encore plus décisive et même en un sens qui va dépasser, va excéder le propos d'Ernst Bloch. Je le cite, les grandes œuvres d'art offrent essentiellement le spectacle d'un pré-apparaître, Forschein, axés sur le réel et sont le signe avant-coureur de leur objet parachevé, produit dans son expression totale. Ça veut dire quoi? Eh bien, vous voulez chercher un lieu où se joue cette anticipation utopique et totalement réelle, eh bien, vous allez le trouver dans les œuvres d'art. Alors, il le dit presque comme en passant, mais il ajoute, à la page suivante, il ajoute ce trait absolument, que je juge absolument génial. Et ça authentifie en plus le lien entre utopie et architecture. Les œuvres architectoniques, ces édifices qui forment, copient, préfigurent un espace plus beau. C'est page 24 de l'édition française. Les œuvres architecturales, je paraphrase, les œuvres architecturales, eh bien les architectes sont allés les copier, les imiter dans le futur. Quand vous entrez dans une église du XIIIe siècle, vous n'entrez absolument pas dans un espace du XIIIe siècle. Vous entrez dans un espace contemporain. Enfin, ce n'est pas l'espace ordinaire, ce n'est pas l'espace de l'extérieur que vous retrouverez en sortant. Vous entrez dans un espace qui a été creusé à l'intérieur de l'espace. C'est Bachelard qui dit ça. L'espace architectural est un espace, c'est comme si on ouvrait l'espace et qu'on crée un espace à l'intérieur de l'espace. Et qu'est-ce que vous trouvez dans cet espace? Un lieu clos? Oui, c'est incontestable, et en même temps, non. Parce que qu'est-ce que vous faites quand vous entrez dans une église? La première chose que vous faites, vous levez les yeux pour voir la voûte. Et quand vous voyez la voûte, vous ne voyez pas ce qui ferme l'espace, vous voyez ce qui vous donne d'ailleurs le vertige, jusqu'à quelle altitude on peut monter. Donc c'est un espace totalement étrange par rapport à l'espace ordinaire. Donc vous n'êtes pas dans un espace du XIIIe siècle, vous êtes dans l'espace du futur que les architectes sont allés copier et qui est cet espace plus beau dans lequel les hommes seraient complètement humains. Alors j'ai été très heureux de rencontrer ça chez Bloch, parce que ça m'a donné jusqu'à un certain point la clé d'une énigme. Cette énigme, elle se trouve formulée chez un philosophe allemand qui s'appelle presque contemporain, enfin il est mort en 2002 je crois, en étant né en 1900, c'est Gadamer. Gadamer, qui a écrit un livre fondamental qui s'appelle « Vérité et méthode », et il dégage une notion, la notion d'indifférenciation esthétique. Ça renvoie à quelque chose de très précis. Les œuvres d'art sont entièrement de leur époque et de leur culture, de part en part, jusque dans les matériaux utilisés. Rien ne s'échappe de l'époque à laquelle elles ont été constituées. En général, elles ont été engendrées dans un horizon de croyances, souvent religieuses, de représentation du monde. Eh bien, ces représentations, ces croyances peuvent s'effondrer totalement, ne plus avoir cours. Les œuvres d'art continueront à être vos contemporaines. Les fresques de Lascaux que j'ai eues, étant presque contemporain de leurs auteurs, j'ai vu les originaux. J'avais 11 ans, j'ai vu les originaux. J'ai pas vu les copies, j'ai vu les originaux. Mais ce qui était peint sur les murs était absolument nos contemporains. On ne sait rien de leurs croyances, mais elles sont là, présentes. Comme dit Gadamer, la statue grecque qui entre au musée, c'est la religion grecque qui entre au musée. Sous une forme paradoxale, pas sous la forme d'une croyance, sous la forme de tout autre chose. Ce tout autre chose, je vous proposerai de l'appeler la foi. Ce qui travaille à l'intérieur des œuvres d'art. Alors là, on comprend à partir, en croisant cela avec ce que dit Ernst Bloch, mais qu'est-ce que c'est qu'une œuvre d'art ? C'est un objet qui s'est rendu disponible parce qu'il visait un objet qui n'existait qu'il visait un futur. Il s'est rendu disponible pour toute époque. Il n'est pas tourné vers le passé, il est tourné vers l'avenir. Une œuvre d'art est tournée vers ce qui vient. Et Ernst Bloch écrit: l'homme veut enfin pénétrer dans le hic et nunc, y devenir lui-même. Il veut vivre réellement dans la plénitude de l'instant et non plus dans l'attente d'un lointain avenir. L'authentique volonté utopique n'est nullement une aspiration infinie. Au contraire, elle ne recherche que l'immédiat et veut que la non-possession de soi, de son se trouver et de son être là, soit enfin médiatisée, clarifiée et comblée dans un bonheur adéquat. Enfin, accéder à l'être positif. Celui-ci est en fin de compte d'une grande simplicité. Il est l'unique chose dont on a besoin. Et donc, ce que je vous proposerai comme conclusion, c'est de dire que l'utopie trouve son accomplissement total dans, peut-être pas les œuvres d'art, mais ce qui se joue dans l'art. Que toute œuvre d'art est utopique, au meilleur sens du terme, et que si les utopies fonctionnent comme utopies, eh bien c'est parce qu'elles sont des œuvres d'art, beaucoup plus que parce qu'elles sont utopiques, au sens ordinaire du terme. Miaou, miaou. Ce qui en savait dire, et j'ai terminé. Merci de votre attention. Avez-vous des questions à poser ?
Merci beaucoup, Alain, pour cet exposé très riche qui, d'abord, a répondu, je crois, à nos attentes, c'est-à-dire d'entendre quelque chose sur les utopies après Thomas More. Et tu as parlé de Campanella, de Bacon, de Saint-Simon et Fourier, qui sont de grands noms dans cette histoire de l'utopie. Ensuite, nous avons entendu des choses intéressantes sur Marx et peut-être cette mise au point par rapport à cette formule si célèbre de l'opium du peuple. Enfin, ce qui est un bel exemple aussi de comment une formule a une histoire et peut être mal comprise, enfin, et contre peut-être les intentions de l'auteur. Et enfin, le passage à Bloch, qui est très précieux, je crois, je suis très content qu'il y ait eu cette attention à ce grand philosophe, peut-être un peu méconnu malgré tout. Et cela a permis alors cette très belle conclusion sur l'utopie et l'art, et que peut-être ce qui est précieux, enfin, les utopies fonctionnent comme utopies parce qu'elles sont d'abord des œuvres d'art. On pourrait revenir par là à Thomas More qui écrit finalement une œuvre qui est littéraire avant d'être philosophique. Et bon, donc cela donne beaucoup à penser. Bon, donc merci beaucoup Alain. Je crois que nous avons justement encore un quart d'heure, donc ça permet vraiment que vous posiez des questions. Peut-être d'abord des questions d'information, si vous avez envie d'apprendre encore quelque chose de plus sur tel ou tel des personnages évoqués, ou bien alors carrément des questions plutôt de débat ou de réaction. À vous la parole.
À ma connaissance, oui, il le connaît. Et ça a eu une influence, mais très indirecte. Parce que vraiment, la grande découverte de Marx, et ce qui va d'ailleurs le conduire loin de l'utopie, c'est que il n'y a rien à chercher indépendamment de la réalité, c'est-à-dire indépendamment de cette structure fondamentale qui fait que les hommes sont d'abord ceux qui produisent leurs moyens d'existence. Et donc, l'utopie de Masmore lui apparaît comme quelque chose d'intéressant culturellement, mais dont il n'y a rien à apprendre, parce qu'elle n'est jamais que l'émanation d'une certaine situation. Il est beaucoup plus attentif aux utopistes du 19e siècle, enfin de son époque, et en particulier il est attentif à Fourier, mais pas à ma connaissance. Hein. À une idéologie au sens de Marx. C'est pas un ensemble de croyances, de propositions qui sont produites afin de rendre la réalité cohérente, mais du même mouvement de cacher la réalité. Par exemple, exemple d'utopie, le développement, la grande place qui est donnée à la raison au moment de la Révolution française, c'est-à-dire à l'universalité. Et il y a tout un système de pensée, toute une philosophie qui va s'articuler comme pensée rationnelle, comme rationalité. Mais en réalité, aux yeux de Marx, c'est pas si universel que ça. C'est la théorie qui se conforme le mieux à cette affirmation. Qu'est-ce que le TRZA? Tout. Qu'est-il actuellement? Rien. C'est-à-dire, nous, la bourgeoisie, nous représentons l'universalité. Voilà. Donc, l'idéologie est pour Marx ce que produit une époque pour se donner une cohérence logique et masquer les véritables failles. Ça répond à votre question. Donc c'est un terme extrêmement péjoratif. Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais je vais y répondre. Oui, c'est une idéologie. Et pour que ce ne soit plus une idéologie, il faudrait que les forces de développement humain soient parvenues jusqu'à leur saturation, en quelque sorte. Et alors à ce moment-là, se déploie la science. Mais on ne peut pas dire que Marx soit scientiste, parce qu'il faut attendre que la domination de la nature soit complète. Alors là, ça peut être l'occasion, un peu en digression, mais ça peut être l'occasion de remarquer l'une des limites de Marx, c'est que son matérialisme qui prend tout en compte s'arrête à la nature. Le véritable ennemi, c'est la nature, par opposition à ce que nous sommes, nous, en train de vivre. Mais nous, chrétiens, nous sommes des idéologues aux yeux de Marx, parce que nous avons déployé un récit extrêmement intéressant, enfin voyez ce que Marx disait de la religion, nous avons compris ce qu'était la réalité, ce qui est quand même pas mal, Mais c'est idéologique, c'est-à-dire ça marche la tête à l'envers. Ça a les pieds en l'air et la tête en bas. Il faudrait le remettre à l'endroit. Et le remettre à l'endroit, c'est devenir matérialiste et dire le plus important, c'est les moyens de production et qui possède les moyens de production. Ceci afin de supprimer le travail, et quand Marx dit travail, il vise la division du travail. Le fait que nous soyons répartis les tâches, en particulier les tâches intellectuelles et les tâches manuelles. Donc, à ce titre-là, le Centre Sèvres est éminemment idéologique. Encore que... Oui. Ah oui, absolument. Absolument, la puissance de l'œuvre d'art, c'est qu'elle nous permet de nous inscrire dans un monde qui finalement est le monde de la réalité. Et là, je vois que je vais pouvoir sacrifier à une de mes marottes. Il y a une citation que je fais tout le temps, parce que je la trouve inépuisable, c'est la citation, vous savez, dans Le temps retrouvé de Proust, la vie, la vraie vie, la vie enfin éclaircie, la vie réellement vécue, c'est la littérature. Et ça ne veut pas dire du tout, ça veut dire exactement ce que vous disiez, c'est-à-dire quand j'entre dans le monde d'une œuvre d'art, je deviens apte à saisir ce qu'est la vraie vie. Et la vraie vie, elle est cette anticipation, cette ouverture qui, de moment en moment, me permet d'agir. Ah oui, je crois. Enfin, il y a beaucoup de choses dans ce que tu as dit là à l'instant. Et il me semble d'abord, premier point, il me semble que la philosophie appartient au domaine de l'art. Vraiment d'une manière extrêmement profonde, vitale. D'ailleurs, avec Jérôme Alexandre, on a écrit un petit bouquin qui s'appelle « Art, foi, politique, à même acte ». Ça, j'y crois vraiment profondément. Et ça présuppose que la philosophie elle-même soit quelque chose de l'ordre de l'art, de l'infini sérieux de l'art. Voilà. Deuxième point, le conte. La philosophie, c'est un aspect de la prise au sérieux de ce qui se joue dans l'art. Mais il faut des lieux de manifestation de l'intelligence collective, c'est-à-dire des lieux de manifestation de ce qu'une époque a compris comme étant le plus essentiel. Ce que Hegel dit des mœurs, les mœurs sont le savoir absolu des périodes, des époques. Et donc, il faut aussi des récits qui ne prétendent pas élaborer des concepts, mais des récits qui permettent à l'intelligence collective de prendre conscience d'elle-même. D'où la place du conte. Et le merveilleux dans le conte, à la différence de l'utopie classique, le merveilleux dans le conte n'est pas du tout évacué. Il est présent, mais il est présent comme accomplissement de la prise de conscience de ce que nous avons compris à une époque donnée. Et sur ce thème de « qu'est-ce qu'a compris une époque ?», il y a un auteur américain qui est très intéressant, il s'appelle Walter, et qui détermine ce qu'une époque comprend, et chaque époque est souveraine dans sa compréhension. L'exemple qu'il prend, c'est l'exemple de l'éducation. Et il dit, les Grecs ne dépensaient pas une drachme pour l'éducation de leurs enfants. Ils comptaient sur la vie quotidienne, l'articulation politique, etc. En revanche, ils mettaient des sommes fabuleuses dans le théâtre. Les Juifs d'Europe centrale misaient tout sur l'éducation des enfants. Et, disait-il, si vous essayez de dire les uns ont tort, les autres ont raison, vous vous plantez totalement, parce qu'une époque est tout à fait souveraine dans la détermination de ce qui importe pour elle. Et le conte, pour en revenir à ça, les récits, les grands récits, servent à faire monter en conscience, sous une forme ou sous une autre, sous une forme souvent déguisée, ce que la période estime comme étant le plus important. Et je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, bien sûr. En disant que le politique c'est ce que je disais précédemment là, le politique, moi je le définirais comme étant l'organisation sociale à partir de ce qu'une époque veut. Or, ce qu'elle veut n'est pas présent d'une autre manière que dans ce mode d'anticipation, cette virtualité qui se montre également dans les œuvres d'art. Le privilège des œuvres d'art, c'est que l'œuvre d'art dépasse le politique. L'œuvre d'art dépasse le politique, et c'est parce que l'œuvre d'art dépasse le politique que le politique peut être vraiment politique. Ça va ? Non. Deux remarques là-dessus. Deux remarques. Première remarque, Aristote. Aristote, l'éthique à Nicomaque. Début de l'éthique à Nicomaque, rien ne dépasse l'horizon de la cité. Horizon absolu. Fin de l'éthique à Nicomaque, ne croyez pas que parce que vous êtes mortel, vous devez vous contenter des choses mortelles. Seules les choses immortelles valent quelque chose. Et donc, il y a mieux que la vie politique, c'est la vie théorétique. Il ne faut pas comprendre ça comme une disqualification du politique, mais de dire la seule politique qui tienne la route, c'est la politique capable de dire « je ne suis pas le dernier mot ». Exactement. Et c'est ainsi que l'art peut féconder le politique. L'autre exemple que je prendrai, c'est le fameux épisode « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Est-ce qu'on doit payer l'impôt ? Amenez-moi de la monnaie, une pièce de monnaie. De qui est l'effigie ? De César. De qui, que dit l'inscription ? César également. Or, l'effigie, c'est l'icône. C'est exactement l'image qu'un souverain implante sur un territoire pour montrer qu'il en est le possesseur. Vous êtes image de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a ? Que dit l'épigraphé ? Et dans l'épigraphé, il y a graphé. Que dit l'écriture ? César. C'est tout. Et vous avez l'écriture. Donc c'est la relativité, c'est pas la séparation des mondes politiques et du monde religieux. C'est la situation exacte du politique. Le politique ne peut prétendre être politique que s'il est en deuxième position. Cette effigie, oui, c'est l'effigie de César. Mais vous, vous êtes les effigies de Dieu. Cette inscription, oui, c'est l'inscription de César. Mais vous, vous avez les Écritures. Donc rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc là aussi, le politique n'est pas du tout nié, mais la véritable place du politique, c'est la place qui permet de dire que le politique est une réalité seconde. Non pas par disqualification du politique, mais par mouvement propre du politique, du vrai politique.
Bon, merci beaucoup Alain, je vois que le temps a passé, il y aurait peut-être encore d'autres questions, mais le thème est passionnant, donc on pourrait continuer indéfiniment. Merci beaucoup, alors encore bon travail cet après-midi.